temps, contre-temps. Une émission de Canal Academy, Virginia Crespo et ses invités.
Bonjour, bienvenue devant les micros de Canal Academy et de son émission Temps contre temps. Temps contre temps, un concept basé sur deux idées force, échange et transmission. Un dialogue entre un académicien riche d'une expérience et d'un savoir acquis, et un étudiant en recherche, en positionnement de ses idées, de ses convictions. Aujourd'hui, devant les micros de Temps contre temps, nous avons le plaisir d'accueillir Yvon Gattaz. Bonjour.
Bonjour.
Yvon Gattaz, diplômé de l'École centrale de Paris, ingénieur diplômé. Vous avez tout d'abord été ingénieur aux aciéries du Nord, puis chef de division aux automobiles Citroën. C'était dans les années 50-54. En 52, vous fondez avec votre frère la société Radial, spécialisée dans les composants électroniques. Et puis, vous devenez président 81 du CNPF, Conseil national du patronat français. Vous en êtes président d'honneur aujourd'hui. Vous avez été également membre du Conseil économique et social de 79 à 89, donc pendant 10 ans, et vous avez défendu, tout le monde le sait, vos idées et la cause de l'entreprise par des publications, par des livres. Les patrons reviennent, le modèle français, Mitterrand et les patrons, la moyenne entreprise championne de la croissance durable, etc. Vous avez participé à la création de nombreuses associations. On parle du mouvement éthique et aujourd'hui, vous êtes actuellement président fondateur de l'association Jeunesse et Entreprise fondée en 86. Alors pourquoi la création de cette association Jeunesse et Entreprise, Yvon Gattaz ?
L'histoire est amusante, n'est-ce pas ? Vous avez dit vous-même tout à l'heure que de 81 à 86, j'étais, comme on dit couramment, le patron des patrons, c'est-à-dire le président du CNPF qui s'appelle aujourd'hui, vous le savez, le MEDEF. Et j'étais très sensible au fait qu'il y avait un fossé entre le monde de l'économie et le monde de l'enseignement. Or, il se trouve que je suis moi-même fils et petit-fils d'enseignants et père d'enseignants. Donc je suis un peu une exception dans une ligne d'enseignants, une exception qui, comme vous le savez, a mal tourné, puisqu'elle a tourné vers l'industrie. L'entreprise. Je me sentais donc un peu coupable et je me disais il faudrait peut-être que tu joues un rôle de réhabilitation et au moins de coordination entre ces deux branches parfaitement honorables et qui s'ignorent et veulent continuer de s'ignorer. Or vous savez, il y a des moments où l'ignorance est aussi grave que l'hostilité. Bon. Alors, puisque j'étais un peu aux affaires, j'ai proposé à mes confrères, donc en 86, de faire les assises du CNPF, qui est un moment fort dans la vie de cette association, de consacrer ces assises à ce thème que j'avais baptisé un peu imprudemment « Jeunesse et entreprise » pour bien montrer qu'il fallait rétablir des liens entre la jeunesse et les entreprises, les uns se rapprochant des autres et les autres des uns. C'est dans les deux sens. Double attraction. Alors, on a lancé ça un petit peu comme un défi, et puis, ça a remarquablement bien réussi, 2500 personnes, des jeunes, des professeurs qui sont venus, beaucoup, beaucoup de chefs d'entreprise, bien sûr, et j'ai constaté que, contrairement à ce que je pensais, il y avait, c'était un sujet très attractif, y compris pour les chefs d'entreprise. Ça a été un peu une découverte. Cette découverte était tellement forte que je me suis dit pourquoi ne pas pérenniser cette initiative et pourquoi en faire de simples assises qui durent une seule journée qu'on a oublié le lendemain. J'ai donc demandé à mes confrères si c'était d'accord pour qu'on crée ce qu'on appelait à l'époque une fondation et qui en fait n'a jamais été qu'une association plus tard reconnue d'utilité publique. Voilà la naissance de Jeunesse Entreprise, Fondation Jeunesse Entreprise, car beaucoup de gens continuent à appeler fondation alors que ça n'a jamais été une fondation, et qui dure donc depuis fin 86, c'est-à-dire voilà une jeune fille qui a 17 ans passés et qui se porte encore pas trop mal.
Alors, Yvon Gattaz, pour partager ce temps de parole aujourd'hui, au cours de ce nouveau temps contre temps, à vos côtés, un ancien enseignant, un agrégé de philo, en la personne d'Olivier Pourriol. Olivier, l'agrégation de philo, c'était en 95. Le parcours à l'école normale, 97-98.
Oui, la fin.
Voilà, et donc aujourd'hui, vous enseignez la philosophie ou c'est terminé ?
Je viens d'arrêter, là je me consacre à de l'édition philosophique. Et qui me prend beaucoup de temps et qui ne peut pas se cumuler. Je me suis cru plus utile à faire connaître les cours d'un professeur que j'avais eu à Louis-le-Grand, qui s'appelle Hubert Grenier, et qui a laissé derrière lui 40 ans de manuscrits intégraux.
Donc un travail dans l'édition,
voilà,
mais
un travail dans l'édition
aussi dans l'entreprise.
Oui, bah oui, parce que j'écris donc romans et scénarii. Scénarios, et dont je suis passé dans le jeu vidéo chez Cryo Interactive.
L'entreprise, vous voilà. Connaissez, vous avez fait une expérience, une incursion.
Oui, une incursion, plusieurs incursions dans le multimédia et dans l'édition. Voilà.
Yvon Gattaz, parlez-nous de la devise « Vite et bien » qu'Olivier Pourriol et moi-même connaissons et qui est en bonne place dans votre bureau. Elle correspond à quoi, cette devise « Vite et bien »
Écoutez, c'est un petit peu un secret du pâtissier. Lorsque nous avons créé la société radiale à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, en 1952, nous étions tout jeunes, mon frère et moi, mon frère qui a disparu récemment, malheureusement, et nous sommes aperçus que fabriquer des composants électroniques, lorsqu'on sortait de l'entreprise où on était ingénieur salarié, tranquille, avec une retraite assurée, c'était une chose extrêmement risquée et difficile à gérer. Et nous sommes rendus compte que la gestion d'une entreprise, pour qu'elle puisse se pérenniser, il faut qu'elle soit rentable. Et pour qu'elle soit rentable, il faut imposer un certain nombre de règles intangibles. Or, nous sommes aperçus que parmi les gens qui travaillent dans une entreprise, comme sans doute les gens qui travaillent dans l'enseignement, il y a des gens qui travaillent vite et d'autres qui travaillent lentement. Il y en a qui travaillent bien et il y en a qui travaillent mal. Il y a donc un compromis à trouver entre la qualité et la vitesse. Alors, on dit de façon générale, qu'on travaille généralement ou bien et lentement, ou vite et mal. Eh bien, c'est faux. Il faut trouver ce compromis difficile, très difficile, et voilà pourquoi nous avons affiché dans notre bureau, dès le jour de la création de Radial, le 17 juin 1952, cette devise, qui est toujours notre devise 51 ans et demi après, vite et bien. Alors, ça fait sourire beaucoup de gens. Beaucoup. Ils ont tort. C'est d'une importance capitale. Et j'ai connu, moi, des ingénieurs qui faisaient en une journée ce que d'autres ingénieurs faisaient en 8 jours, 15 jours, voire un mois. Bah, la différence de vitesse est fabuleuse. Vous allez me dire que la différence de qualité aussi. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est les gens qui vont très très vite. Car c'est incompatible de faire très vite et bien. De même, il est incompatible de faire très bien. Beaucoup de gens font très bien et lentement. Ça ne va pas non plus. Dans l'entreprise, on ne peut pas faire très bien lentement. Et alors, nous nous battons pour qu'on ait ce compromis entre la rapidité et la qualité. Et c'est peut-être pour ça que nous sommes pas trop mal arrivés. C'est donc plus qu'une maxime, c'est une philosophie, c'est un mode de vie, c'est un mode d'exploitation de l'entreprise, un mode de gestion de l'entreprise tout à fait capital.
Yvon Gattaz, vous qui avez vécu le travail dans tous ces domaines, est-ce que le travail aliène ou libère l'homme ?
Libère, bien entendu. Le travail qui a été considéré très longtemps comme aliénant est devenu libérateur. On a découvert qu'il était libérateur. Heureusement qu'il est libérateur. Regardez, il a libéré la femme déjà, plus que la cigarette. Bien, donc le travail est libérateur. Vous en voulez des exemples ? Il y en a mille. Moi, je connais des gens qui pourraient vivre comme autrefois au 19e siècle de leurs revenus, mais qui seraient honteux de rester sans travail, honteux, et qui veulent absolument, comme ils disent, une occupation. N'est-ce pas ? Et le travail, nous prenons par exemple, dans notre association Jeunesse et Entreprise, nous employons beaucoup d'experts bénévoles que nous appelons des JR, les jeunes retraités. Ce n'est pas JR de Dallas, c'est les jeunes retraités. Eh bien, j'ai cherché un peu quelles étaient leurs motivations, mais ce sont très souvent des gens qui sont mis sur le chemin, le bord du chemin de la retraite un peu trop tôt, je déplore, 60 ans, quelquefois 55 ans, parfois même 50 ans, c'est dramatique, car ils ont encore tous leurs moyens physiques et intellectuels, ils s'ennuient, ils veulent travailler, même bénévolement, mais c'est le travail qui les libère, psychologiquement, familialement, socialement. Le travail est extraordinairement libérateur. Ce n'est plus la contrainte. Alors, le travail était contraignant, c'est vrai. Oh, on parle toujours du travail physique, épuisant d'autrefois. Mais je ne sais pas si vous avez visité récemment un atelier de montage d'automobiles. Je dis ça parce que vous l'avez dit vous-même, j'ai été au début de ma carrière ingénieur chez Citroën, qui était déjà une excellente entreprise. Mais aujourd'hui, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Vous, d'abord, vous voyez des femmes qui n'existaient pas de mon temps, dans des tenues de travail tout à fait coquettes. Et alors, c'est pas les mains dans le cambouis, croyez-moi. C'est plutôt le laboratoire pharmaceutique. Alors, les gens qui rêvent toujours, c'est pas quand on parle de la mécanique, les jeunes avec qui je travaille beaucoup, me disent, monsieur, tout sauf la mécanique. Ils pensent encore à la réparation de tracteurs agricoles. Ils n'ont pas compris que la mécanique aujourd'hui, c'est en blouse blanche devant des ordinateurs. Enfin, toutes les machines aujourd'hui sont à programmation numérique. Et dans nos ateliers de mon groupe, Radial, nous avons 4 usines en France, ils ont tous des blouses blanches devant des tours de programmation numérique. Et ils font de la programmation devant leur écran. Et la machine fait les travaux physique, manuel, n'est-ce pas, qui était autrefois manuel.
Olivier Pourriol, voilà. Oui, par rapport à cette motivation devant le travail.
Moi, j'écoute M. Gattaz avec... ça fait longtemps que je n'avais pas entendu que le travail était enfin, désaliénant. Moi, ça me rappelle un peu les cours de philosophie. J'avais plutôt l'impression d'avoir en face de moi des élèves qui cherchaient à se libérer, non pas par le travail, mais plutôt du travail. Et on était toujours surpris, ou disons, des travaux qu'on leur proposait. Parce que ce qui me paraît, moi, c'est que vous prenez un exemple qui est industriel, et en fait, malheureusement, les travaux qui sont proposés actuellement, j'ai l'impression, sont plutôt sociétés de services, et de services que je dirais inutiles ou gratuits. Quand on se destine à on ne sait pas quoi et qu'on n'a pas fait suffisamment d'études, on peut se retrouver très facilement sur une plateforme de téléphonie à répondre à des hotlines, comme on dit, donc faire du service client en étant mal formé, en étant surveillé. C'est une espèce d'univers. Là, c'est finalement complètement déshumanisé. Il n'y a pas la blouse blanche, puisqu'on ne vaut que par sa voix. Et par contre, on est surveillé, on est écouté. C'est pas quelque chose qui a l'air... c'est comme si on était un peu... On recevait la colère du consommateur, du client. Enfin, c'est peut-être caricatural, mais il me semble, moi, ce que j'ai observé chez mes élèves, c'est qu'ils ont envie de travailler, de faire. Ils n'ont pas envie de sombrer dans l'ennui, et ce sont peut-être des futurs pré-retraités ou je ne sais pas quoi, et ils ne demandent qu'une chose, c'est de faire. Mais la seule destination qu'ils imaginent pour eux, même quand ils sont en section économique et sociale, alors qu'ils sont destinés apparemment au monde du travail et qu'ils y sont concernés très directement, c'est les métiers artistiques. Moi, l'année dernière, j'ai encore vu un conseil de classe sur une classe d'une trentaine d'élèves économiques et sociales, un bon tiers se destinait au métier de l'art, de l'art appliqué. Mais de l'art, donc, c'était les ateliers de Sèvres, etc. Je me suis demandé pourquoi, et quand je discutais avec eux, je m'apercevais que le reste ne leur parlait pas, et qu'à part les professions dites libérales, où il y a un reste de liberté, le monde du travail pour eux se présente surtout comme un univers extrêmement hiérarchisé, quel que soit le niveau de compétence. Et qu'on rentre consultant chez Deloitte ou ouvrier qualifié et très qualifié, j'imagine, chez Radial, au fond, on s'inscrit dans une hiérarchie, on ne maîtrise pas le fruit de son travail ni la destination de ce qu'on fait. Voilà.
Oui, écoutez, c'est parfaitement honorable ce que vous dites, et vraisemblable, mais je dois vous donner le point de vue de l'entreprise. Je ne dis pas que les entreprises sont parfaites. Il y a sûrement des entreprises, comme vous les avez décrites, un petit peu plus sévères que d'autres, etc. Mais ça a changé de façon fabuleuse depuis 50 ans. Fabuleux, n'est-ce pas ? Le travail, il ne faut pas qu'il soit subi, il faut qu'il soit choisi. Alors, vous allez me répondre, mais on ne peut pas choisir toujours, ce qui est parfaitement vrai. On n'a pas toujours le choix, surtout lorsqu'on est peu qualifié. Ça, je le reconnais. Plus vous êtes qualifié, plus vous pouvez choisir. Et ce choix est essentiel. Et il se trouve que nous avons fait, à Jeunesse et Entreprise, en 2002, une immense enquête qui a duré un an sur les métiers. Nous avons choisi, avec nos experts, nos JR dont nous parlions tout à l'heure, nous avons choisi quelques 200 métiers, ce qui est déjà pas mal, et nous avons soumis ces métiers à l'appréciation, d'une part, d'un très grand nombre de jeunes de première, de tous les lycées de France, de beaucoup de lycées de France, et d'entreprises. Et nous avons après étudié, bien entendu, ce que c'était à prévoir, les différences, qui sont fabuleuses, extraordinaires. C'est vrai que les jeunes, encore dans ces domaines professionnels, de métiers de demain, ont encore des parts de rêve, parfois un peu inquiétantes, n'est-ce pas ? Tu penses qu'ils veulent tous jouer de la guitare, mais beaucoup, et pensent que ça va leur apporter beaucoup d'argent. Il y a encore une part de rêve que nous pardonnons volontiers à la jeunesse. Donc, les mêmes métiers proposés aux jeunes et proposés aux entreprises ont eu des classements tout à fait différents. En un mot, les métiers de demain demandés par les entreprises que nous avons classés ne sont pas les métiers préférés des jeunes. Et c'est vrai que ces préférences des jeunes sont parfois étonnantes. Nous avons trouvé en tête joueur de football professionnel, n'est-ce pas ? Hallucinant. Bah, je ne dis pas que ce n'est pas noble, mais enfin, quand on sait qu'il y en a quelques dizaines en France et que c'est leur rêve, c'est l'histoire de la guitare d'il y a 30 ans.
À mon époque, c'était pompier et cosmonaute.
Alors oui, c'est ça. Alors, n'est-ce pas ? Il faut bien faire la part de rêve chez les jeunes. Moi, je les connais suffisamment et je les aime suffisamment pour leur pardonner ça. Mais il faut également qu'ils nous écoutent. Et nous leur disons, ce qu'il y a de formidable aujourd'hui, c'est que avec leur connaissance et leur goût, enfin, aptitude et goût réunis, il n'y a pas un métier comme ils le croient qui leur convienne, mais il y en a des dizaines. Mais ils ne les connaissent pas. Donc le rôle que nous devons jouer, c'est de faire connaître les métiers des entreprises aux jeunes qui les ignorent. C'est fou le nombre de métiers. Quand on a choisi 200, mais on peut en choisir 2000. Mais on comprend très bien qu'un gosse de 18 ans ne les connaisse pas. Moi, j'ai des petits-enfants dont je m'occupe beaucoup d'autres jeunes également, et je vois bien que l'ignorance qu'ils ont sur les métiers, d'ailleurs, malgré mon âge, je ne les connais pas tous moi-même, n'est-ce pas ? Et pourtant, j'ai été chef d'entreprise depuis bien longtemps. Donc, un de nos rôles qu'il faut absolument s'assigner, qui est capital, c'est de faire connaître les métiers, et particulièrement les métiers de demain, les métiers dont nos entreprises nous aurons besoin à ces jeunes. Et puis qu'ils s'aperçoivent que certains correspondent à la fois à leurs aptitudes et à leurs goûts. Et ils vont trouver leur bonheur là-dedans. Ça sera, comme je vous le disais tout à l'heure, un métier choisi. Et ça, c'est très important.
Donc un travail main dans la main avec l'éducation nationale à l'heure d'aujourd'hui ?
Tout à fait. Tout à fait. Là, on travaille beaucoup avec l'éducation nationale. Et nous avons des résultats non négligeables. Nous avons fait beaucoup de choses avec eux, puisque vous me tendez la main. Nous avons lancé, en 92, quelque chose d'un petit peu amusant. Nous avons lancé une petite plaquette, toute petite, qui s'appelait « Les entreprises parlent aux élèves de 4e ». Et je suis allé voir le ministre de l'Éducation nationale, qui à l'époque était M. Jospin, bien avant qu'il soit Premier ministre. Et je lui ai dit « Voilà ». Nous voulons faire une plaquette rédigée par des chefs d'entreprise. Les entreprises parlent aux élèves de 4e et le titre, le surtitre, c'était « Bien dans ton métier ». On affichait la couleur. Et on expliquait dans cette petite plaquette qui était très illustrée, très amusante, etc., qu'il y avait de nombreux métiers et on leur avait même fait une petite liste de quelques 20 ou 25 métiers en expliquant quel était le niveau de qualification indispensable. Par exemple, on leur expliquait que pour être analyste dans l'informatique, le CAP était insuffisant, débouché zéro. Il fallait leur dire. Donc, il y avait dans ce tableau beaucoup de zéros. Ce qui inquiétait beaucoup de gens. Vous êtes fous, vous les démotivez. On dit pas du tout. On leur montrait que pour ce métier-là, il faut une qualification, au moins Bac plus 2 pour être crédible, etc. Donc, cette plaquette a eu un succès fou. Nous l'avons fait pendant 5 ans. L'Éducation nationale l'a envoyé à tous les élèves de 4e, c'est pas 750 000. Classe d'âge, et on en tirait 1 million, ce qui faisait quand même 20 tonnes de papier par an, une opération très lourde que nous avons fait pendant 5 ans. Et puis on l'a arrêté parce qu'un autre ministre de l'Éducation nationale a trouvé qu'il faisait le routage qui était difficile et compliqué, on l'a arrêté. Mais en un mot, c'est une opération extrêmement réussie pour faire connaître les métiers aux jeunes dès la 4e. Vous voyez ?
Yvon Gattaz, Olivier Pourriol, nous nous retrouvons dans quelques instants, le temps d'une pause.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez.
Vous écoutez Canal Académie, on retrouve Virginia Crespo.
Nous sommes de retour devant les micros de Temps contre Temps en compagnie d'Yvon Gattaz et d'Olivier Pourriol. Yvon Gattaz, notre société qui laisse une place prépondérante au jour d'aujourd'hui, en 2004, au loisir. et aux médias. Le monde du travail y est représenté comment, à votre goût, à votre avis, dans ce monde des loisirs qui attire et qui draine tellement de jeunes vers lui?
Assez mal. Assez mal. Les jeunes sont, nous l'avons vu tout à l'heure avec Olivier Pourriol, sont assez mal informés de la vie en entreprise. Car c'est une vie fort différente de la vie scolaire et universitaire. Très différente, j'allais dire morphologiquement, c'est pas les mêmes astreintes, c'est pas les mêmes disciplines, c'est pas le même environnement, tout est différent. Et on passe d'un milieu qui a une certaine liberté d'habillement, de comportement, de langage, d'expression, etc., à un milieu qui forcément comporte un minimum de discipline, le mot étant, je sais bien, assez mal apprécié aujourd'hui, on peut appeler ça de l'ordre ou de l'organisation si on préfère, mais une entreprise n'est rentable que justement si elle est organisée. C'est l'ABC de la gestion. C'est pas une entreprise qui laisserait chacun faire ce qu'il veut à sa manière, comme il veut, sans un minimum d'organisation, ne réussirait pas. Donc il faut accepter cette sorte de contrainte d'organisation qui est indispensable à l'entreprise. Alors, je sais bien que la France, depuis quelques années, ne parle que du mode de vie, du temps libre, même parfois une forme d'hédonisme, qui n'est qu'une forme élégante de l'égoïsme. L'hédonisme prive le plaisir, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit des valeurs sociétales à long terme. Je ne suis pas sûr. Je crois que les valeurs sociétales à long terme, c'est quand même le travail qui apporte beaucoup de satisfaction. Je le répète, une énorme satisfaction de soi. C'est pas, ne pas uniquement pour les chefs d'entreprise qui réussissent, que je reconnais qu'alors eux, quelquefois ils ont un ego un peu enflé, mais dans des catégories intermédiaires, n'est-ce pas? Moi, je connais bien tous les milieux de l'entreprise, puisque j'ai vécu dans l'entreprise toute ma vie. Moi, j'ai vu que dans tous les milieux, même l'agent d'exécution peut se réaliser. Nous sommes en train de... Je vous dis ça parce que nous sommes en train, je suis en train de relire une plaquette du cinquantenaire qui sort avec un peu de retard sur notre petit groupe de composants électroniques. Et j'ai pris l'ancienne déléguée générale de Jeunesse Entreprise, Monique Guyard, qui a travaillé avec moi pendant plus de 10 ans et qui écrit très bien, pour qu'elle aille interviewer des gens qu'elle ne connaissait pas. Car écrit par moi, ça aurait été forcément tendancieux. Je lui ai dit, écoutez, vous connaissez personne et allez les interviewer, et s'il vous plaît, dans tous les niveaux. Et Monique a fait très bien son travail, elle est allée interviewer dans toutes nos usines des gens qui sont quelquefois chez nous depuis très longtemps, voire plus de 30 ans. Et c'est extraordinaire de voir la satisfaction de la réalisation de la vie de ces gens-là, n'est-ce pas ? Heureux de leur vie, heureux de leur promotion, heureux de leur réalisation, heureux des contacts. Car ce qu'on oublie toujours de dire, c'est que la fraternité dans une entreprise est extrêmement forte. Vous savez, avant le drame du sang contaminé, j'avais l'habitude de dire qu'on trouvait plus facilement un donneur de sang lorsqu'on avait une maladie grave dans ses camarades d'atelier que chez ses voisins de palier. Croyez-moi, c'est vrai. La fraternité spontanée qui existe dans les ateliers et qui n'est pas télécommandée par la direction, qui s'installe de là-bas spontanément, est extrêmement grande. Donc la vie en entreprise est une vie pour le minimum très conviviale, j'ose pas dire le mot fraternel qui serait peut-être abusif, mais tout à fait conviviale.
Yvon Gattaz, vous nous rappelez que le taux d'activité professionnelle aujourd'hui en France des jeunes, des 16 à 25 ans, est de 32% en France, contre 66% aux États-Unis et 71% en Grande-Bretagne. Vous dites que le chômage des jeunes est une bombe déjà allumée dont on ne connaît pas la longueur de la mèche.
Et oui, l'activité, le chômage des jeunes est un des drames de notre pays. Chômage. Si le chômage dans son ensemble est un drame tout à fait inquiétant, il est encore plus inquiétant chez les jeunes que chez les personnes d'âge mûr. Pourquoi ? Pour une raison simple. C'est qu'un homme de 50 ans a peu de chances de tourner mal s'il est au chômage à 50 ans, même si ça comporte des drames familiaux que je ne sous-estime pas, alors qu'un jeune de 20 ans est à la déroute. Il est perdu, il est paumé. Avec ce drame supplémentaire, c'est que s'il ne trouve pas d'emploi dans un certain délai, il n'arrive plus à se caser par la suite, car il n'a plus confiance en lui, il ne sait plus se présenter, il ne sait plus se vendre. On voit beaucoup de jeunes au chômage depuis un certain temps qui deviennent inaptes à l'emploi Ce qui est encore plus grave, n'est-ce pas? C'est un de nos sujets de préoccupation à Jeunesse et Entreprise. Et nous demandons comment leur redonner confiance en eux. La meilleure solution étant, bien entendu, de leur faire faire des stages en entreprise, les immerger à nouveau, qui reprennent la température et qui reprennent un peu l'atmosphère, qui leur donne confiance en eux en disant, vous savez, je peux faire des choses pour vous qui pourraient rendre service à l'entreprise. Mais ce chômage des jeunes dont nous parlons et qui est particulièrement fort en France, c'est certainement, c'est peu dit malheureusement, on parle toujours des drames de la France ou des insuffisances de la France, on ne parle pas assez de ce chômage des jeunes qui est, me semble-t-il, le point capital. Alors, il n'y a pas de panacée, si je l'avais dans ma manche, je vous le donnerais, n'est-ce pas ? Mais c'est plutôt le résultat d'un certain nombre de mesures, en particulier de mesures d'incitation, n'est-ce pas ? Et c'est de la faute certainement des entreprises, c'est sans doute de la faute de l'enseignement, et c'est sans doute aussi un peu de la faute des jeunes eux-mêmes, n'est-ce pas ? Qui, nous l'avons dit plusieurs fois là, au cours de cette émission, pensent parfois jouer de la guitare, et n'ont pas compris suffisamment que leur avenir passe par le métier qu'ils exerceront.
Vous dites que l'Allemagne a confié la formation des jeunes aux entreprises elles-mêmes et que nos entreprises françaises, elles, pensent avoir rempli leur devoir en payant la taxe d'apprentissage.
Oui, il n'a, n'est-ce pas, un député bien intentionné qui s'appelait M. Astier, en 1919, c'est-à-dire immédiatement après la Première Guerre mondiale, avait eu l'idée d'imposer en France l'apprentissage forcé. Les entreprises doivent former des apprentis. Au lieu de faire de l'incitation, il a pensé à la coercition. Et même cette coercition a été telle que 2 ans plus tard, l'Assemblée a voté la taxe d'apprentissage. Non seulement vous devez prendre des apprentis, mais si vous ne pouvez pas, ben vous allez payer une taxe. Tout ça était de très bonne intention, et c'est un résultat catastrophique. Car les entreprises, au lieu de s'intéresser à la formation des jeunes, ont payé une taxe et se sont moralement libérées de cette obligation par le paiement d'une taxe, ce qui est lamentable. Alors que les Allemands n'ont jamais eu ni de contrainte obligatoire d'apprentissage, ni de paiement de taxe d'apprentissage, et ont simplement dit, les entreprises allemandes ont dit, nous prenons en charge l'apprentissage des jeunes. Et en Allemagne, vous savez, la formation dite due, c'est-à-dire moitié technique, moitié théorique, c'est pas, moitié en établissement scolaire universitaire, moitié dans l'entreprise, donne des résultats extraordinaires sur la formation des jeunes, car ils ont à la fois la théorie et la pratique, et nous avons, nous, une usine à Francfort, et bon, ça a été toujours mon grand étonnement, chaque fois que je vais là-bas, d'aller rendre visite à mes stagiaires, qui m'ont triomphalement le cahier qu'ils ont à l'université et qu'ils doivent faire signer par le chef d'établissement. De même qu'ils doivent donner à leurs professeurs ce qu'ils ont fait dans l'établissement les 3 jours qui restent. C'est vraiment la main dans la main et ça ne comporte pas de sanctions sous forme de taxes, c'est simplement des résultats que les entreprises se sont imposées avec un très bon succès en Europe.
Olivier Pourriol, qui est agrégé de philosophie et qui a enseigné la philosophie.
Oui, j'ai écouté Monsieur Gattaz faire un éloge de la discipline qui ne déplairait à aucun des professeurs susceptibles d'écouter cette émission ou pas. Mais il me semble en fait que l'opposition qui est faite entre monde du travail et enseignement, et je ne sais pas si elle est encore adéquate avec effectivement une société de loisirs qui s'est déployée. Vous en parlez des valeurs sociétales corrélatives qui ne portent même plus le nom de valeurs, ce sont plus vraiment des valeurs. Ce qui me semble complètement paradoxal dans le monde actuel, c'est peut-être un peu vaste comme champ d'application, mais c'est simplement d'un côté la méconnaissance de la discipline nécessaire pour reprendre l'exemple de Monsieur Gattaz, même pour jouer de la guitare, justement, c'est moi pour avoir écrit un livre sur les musiciens et en avoir fréquenté énormément, je suis tombé complètement d'accord avec le philosophe Alain qui disait que ceux qui apprenaient la musique connaissaient eux le sens du mot travail et n'avaient pas une idée de l'art très différente de celle d'un artisan et de celle d'un métier, d'un compagnonnage. Et de l'autre côté, la valorisation des loisirs obligatoires dans un monde qui repose sur la consommation, l'invention de biens de consommation pour fabriquer de l'activité. J'ai l'impression qu'on est dans un paradoxe. Parce que d'un côté, il faut qu'on développe des consommateurs et pour faire tourner la machine. Et de l'autre côté, on est obligé, si on veut fabriquer, d'être dans tout sauf dans le loisir. Ou alors, pour reprendre une distinction que faisaient les anciens et qui me paraît encore valable, avec l'exemple de vos retraités actifs par plaisir, on peut retrouver le sens de l'otium latin, hein, le loisir noble, qui est un travail en fait véritablement libre. Avec, il me semble que là, Monsieur Gattaz, parce que au départ, en fait, il a pour but dans son association de réassocier, parce que c'est le sens du mot association, le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement. Effectivement, je crois, ça, je l'ai mesuré, qu'il y a une ignorance complète de la diversité, du détail des métiers disponibles. Et de ce point de vue, le rapport à la NPE qui reste souvent assez assez délicat pour un jeune, mais pas que pour un jeune, hein, parce que on peut être jeune photographe à 35 ans si on se lance dans une carrière. Le mot jeune, Monsieur Gattaz le faisait remarquer d'ailleurs dans son intervention devant l'institut, est une désignation parfaitement absurde qui relève au fond, qui montre l'incapacité à saisir l'entrée du monde dans le monde du travail comme autre chose qu'un accident qui guette ceux qui sortent de l'école. Et l'opposition théorie-pratique qui est faite traditionnellement, d'ailleurs, me paraît complètement ridicule, puisque ceux qui sont le mieux susceptibles de pratiquer, c'est ceux qui ont appris la théorie. Alain le faisait remarquer, l'enseignement professionnel, qui pour lui était une alliance de mots, était tout de même, par la capacité d'abstraction, permettait d'être extrêmement concret après. Prenez l'exemple d'un gamin pêcheur qui avait été envoyé en formation professionnelle la première fois, les premières vacances, quand il est rentré chez son père, quand le père a vu l'efficacité redoublée du gamin dans ses techniques de pêche, a refusé de le renvoyer finir la formation parce qu'il se disait que ça lui suffisait largement. Donc il y a un équilibre à trouver, je pense, entre l'abstraction nécessaire dans une éducation et l'insertion ensuite dans le tissu de l'activité. Mais le problème, moi, qui me semble propre aux pays riches, que nous sommes, c'est d'un côté l'obligation d'inventer des activités juste pour fournir du travail, et que le travail comme valeur, certes, il n'y a rien de plus formateur, mais malheureusement, on se demande pour produire quoi. Voilà. Et dans une société qui n'est plus que industrielle, et où on fabrique maintenant des machines à laver, des voitures qui sont censées tomber en panne au bout de 2 ans pour pouvoir en fabriquer d'autres, en vendre de nouvelles, on se demande comment on peut valoriser le travail d'un côté sans valoriser au fond la notion de durée et de fruits réels du travail. Hein, moi, je suis fasciné par la vitesse à laquelle non seulement les objets mécaniques modernes, électroniques tombent en panne, mais à quel point c'est prévu. Et à quel point maintenant on voit même des publicités, je ne citerai pas la marque, pour une voiture qui intègre son service après-vente dans l'outil lui-même et qui prévoit déjà en disant, voilà, votre prochaine panne, vous viendrez la soigner chez nous. Ça me semble paradoxal de vendre une machine en prévenant qu'elle va tomber en panne.
Oui, c'est pour le général, parce que nous exigeons une qualité très grande dans certaines branches, qui est ce qu'on appelle la fiabilité. Bon, par exemple, dans les composants électroniques, c'est la qualité majeure, hein, la fiabilité. Donc, c'est la durée, c'est non-panne. Et donc, c'est peut-être vrai pour l'électroménager, c'est vrai que maintenant, on change plus la pièce, on change l'ensemble, c'est bien connu. Bon, mais donc, c'est parfaitement vrai. 2 ou 3 remarques sur ce que vous venez de dire, fort intéressant d'ailleurs. Vous avez parlé un peu de la professionnalisation de l'art, n'est-ce pas? Mais oui, c'est vrai que dans l'art, si on veut réussir, je crois que les grands artistes, les grands sportifs sont des professionnels, comme des professionnels de l'entreprise, n'est-ce pas? Il y a d'ailleurs dans les loisirs dont vous venez de parler, l'industrialisation des loisirs, l'industrie des loisirs, qui a été lancée par le Club Med et notre ami Gilbert Trigano, avec le succès que vous savez, n'est-ce pas? Donc ça a été une innovation. Et c'est vrai que tout ça, c'est industrialisé, ça veut dire c'est organisé. Tout le monde croit qu'on peut faire tout ça dans le désordre, l'inspiration du moment, dans n'importe quoi. Vous savez, mon père qui était enseignant, je vous l'ai dit tout à l'heure, était également artiste peintre, c'est vrai qu'il avait son côté un peu et conservateur de musée, il se libérait un peu en faisant des tableaux dans tous les sens, il était tellement farfelu qu'il les peignait des deux côtés d'ailleurs, ce qui ne facilitait pas la vente, n'est-ce pas, des tableaux. Bon, donc, vous avez parlé de l'invention, d'innovation. Alors là, c'est très important. Je crois que les jeunes, ont besoin d'innovation, et ce sont les plus innovateurs. Les vrais innovateurs sont toujours les jeunes, c'est pas les gens de mon âge, c'est pas. Nous avons été innovateurs, mais en vieillissant, on devient traditionnaliste. On a tous un stock d'innovation qui est congénital. Puis, vous le libérez quand vous êtes jeune. vous ne libérez pas à 50 ou 60 ans ou plus, n'est-ce pas? Donc, nous avons besoin des jeunes pour leur capacité d'innovation créatrice. Car, figurez-vous que l'innovation créatrice, l'imagination créatrice, est une qualité extrêmement rare. On la trouve chez des artistes, puisque vous avez parlé des artistes, beaucoup. Dans l'industrie, on le trouve très peu. Les Américains ont dit qu'il n'y avait qu'un individu sur 30 qui avait de la véritable imagination créatrice. Et que les autres n'avaient que de l'imagination farfelue, onirique. Vous savez, on rêve d'être Maharaja la nuit, ça s'efface au petit matin. Bon, c'est pas de l'imagination, ça c'est du rêve. Mais la véritable imagination créatrice, c'est celui qui rêve la nuit, qui va faire un crayon comme celui que je vous présente, n'est-ce pas? Et qui le fabrique le lendemain, le surlendemain, pendant des mois et des années, qu'il réalise. C'est l'imagination créatrice, extrêmement rare. Et ça sont les jeunes. Il faut demander aux jeunes quels sont les créneaux de demain. Nous ne le savons pas. Vous savez, j'avais écrit un livre en 69 qui a fait quelques bruits, qui m'a peut-être même un petit peu lancé dans le monde extra-professionnel, et qui s'appelait « Les hommes en gris », que vous n'avez d'ailleurs pas cité tout à l'heure dans vos petites références. Et c'est pourtant mon meilleur. « Les hommes en gris », j'ai lancé ce livre pour relancer la création d'entreprises en France, car il se trouve qu'en 68, après les événements révolutionnaires que vous savez, la notion de patron était devenue catastrophique et que plus personne ne voulait être patron. Plus personne. Et que personne ne sait qu'en 69, c'est la seule année où il n'y a pas eu une création d'entreprise en France. Donc, par la réaction, moi qui en avais créé une avec mon frère en 52, j'ai dit, mais c'est honteux, je vais écrire un livre sur la création d'entreprise. J'ai donc lancé ce livre, Les Hommes en Gris, qui a eu un certain succès, qui a été réalisé de nombreuses fois. Et j'expliquais qu'il fallait innover sur la création d'entreprise et qu'il fallait lancer la création d'entreprise en France. Alors après, ça a pris, beaucoup de gens sont intéressés à ça, et on a voulu organiser la création d'entreprise. On m'a demandé 10 fois, 100 fois, de présider des jurys sur la création d'entreprise, que j'ai toujours refusé. Car il ne faut pas juger le créneau. Plus le créneau est farfelu, plus il a des chances de faire fortune. Or, des gens raisonnables vont dire non, surtout pas ça qui est farfelu, faites donc des choses raisonnables, ce qui est idiot, n'est-ce pas? Donc, il ne faut jamais demander à des personnes raisonnables, et surtout un peu âgées, de présider des jurys de création d'entreprise, jugeant le produit. Tout ce que nous pouvons faire, nous, c'est donner des conseils de prudence, de gestion financière, d'organisation administrative, mais jamais juger le créneau marché-produit, qui est le secret stratégique de l'entrepreneur. Or, ce secret stratégique de l'entrepreneur est presque toujours découvert par des jeunes. Ce sont les jeunes qui trouvent ça, et pas nous. C'est pour ça que je pousse tant les jeunes depuis des années, avec d'ailleurs un certain succès, à créer des entreprises, à trouver des créneaux, et ils en trouvent beaucoup. J'ai conseillé dans ma vie des jeunes, j'ose pas dire des centaines, de jeunes qui sont venus me demander, bénévolement bien sûr, de les conseiller pour la création de telle ou telle entreprise, et je dis en plaisantant quelquefois, j'ai très peu de faillites. J'ai très peu de faillites. Mmh. C'est-à-dire, la vérité, c'est assez simple. Quand on sent que le garçon, il peut avoir une idée géniale, mais qu'il n'a pas les qualités d'entrepreneur, c'est-à-dire qu'il a l'idée, mais il n'est pas capable de la réaliser. Il est, en un mot, il est dilettante, farfelu, imaginatif. Eh bien, faut qu'il s'associe avec quelqu'un, lui aura l'idée et l'autre la réalisera. Ou il va vendre son idée à quelqu'un d'autre. Moi, je crois beaucoup aux associations, parce que un chef d'entreprise n'étant jamais parfait, on trouve le chef d'entreprise parfait par association de plusieurs talents complémentaires.
Yvon Gattaz, en 2004, optimiste pour les jeunes et l'entreprise?
Très. Très optimiste. D'ailleurs, pour être chef d'entreprise, il faut être optimiste. Déjà, alors moi, on m'a souvent dit que j'étais un optimiste pathologique, ce qui est inquiétant. C'est pas... Mais je crois que c'est vrai quand même. Je crois qu'il faut être optimiste parce que moi, je vois quand même dans ma longue carrière que les choses ont beaucoup changé. Beaucoup changé. Les jeunes s'intéressent beaucoup maintenant à des créations, à l'innovation, découvrent des choses fabuleuses, hésitent à se lancer car c'est pas facile, c'est vrai. Mais enfin, il y a maintenant beaucoup de supports financiers, beaucoup d'aides, beaucoup plus. On crée plus facilement une entreprise. On a même pu créer des entreprises pratiquement sans capitaux dans des domaines de SS2I ou des choses comme ça. Bon, et certaines avec talent. Et avec succès. On a eu la crise que vous savez, car il y a eu une enflure un petit peu démesurée. Mais moi, je suis très optimiste pour les créations de jeunes dans les années qui viennent.
Alors, tous nos voeux en ce début 2004 pour votre association Jeunesse et Entreprise et pour tout ce que vous entreprendrez, Olivier Pauriol, notamment l'écriture de vos prochains ouvrages. Merci, messieurs, d'avoir participé à Temps contre Temps.